Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
On commence avec les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Canberra et l'ACT qui entreront dans un confinement dès ce soir. On revient sur cette nouvelle qui vient de tomber dans notre journal. Le Victoria qui enregistre 21 nouveaux cas de coronavirus acquis localement, dont 4 infections mystérieuses, alors que le Queensland enregistre 10 autres cas et la Nouvelle-Galles du Sud 345. Avant de développer la nouvelle pour Canberra et l'ACT, la Nouvelle-Galles du Sud, donc je viens de vous le dire en titre, qui a enregistré 345 nouveaux cas de transmission communautaire, dont 60 personnes qui étaient infectieuses dans la communauté. Deux autres décès ont également été enregistrés. Cela porte à 37 le nombre total de décès associés à cette épidémie. Il y a maintenant 347 personnes hospitalisées, 62 sont en soins intensifs et 29 sont sous respirateur. Il y a encore, il y a eu un record, 152 000 tests effectués au cours des dernières 24 heures et 106 000 vaccinations dans l'État. La plupart des cas ont été enregistrés dans la région de Canterbury, Bankston, mais les responsables affirment que ces cas se stabilisent. En raison des problèmes de transmission, les régions de Burnwood, Strathfield et Bayside auront désormais des restrictions supplémentaires à partir de 17 heures. Aujourd'hui, on écoute la première de Nouvelle-Galles du Sud.
Based on health advice, there'll be 3 additional local government areas which we'd foreshadowed yesterday to be included, which brings the total local government areas in the Greater Sydney area to a dozen. From 5 o'clock this evening, Bayside, Strathfield and Burwood local government areas will also be included in those areas of concern.
Voilà, donc pour la Nouvelle-Galles du Sud, et d'ailleurs on reste en Nouvelle-Galles du Sud, la première, donc Gladys Berejiklian, a préfiguré de plus grandes libertés pour les résidents donc de l'État qui se feront vacciner tout en excluant la levée des restrictions avant le 28 août. Gladys Berejiklian affirme que les zones avec des taux de vaccination élevés et un faible nombre de cas pourrait, et je souligne le pourrait, avoir des règles assouplies avant même d'avoir atteint le 70% qui était fixé. On l'écoute.
I think it's important to say to people that if we have higher rates of vaccination, there is every chance you might be able to do something more than what you can today. And I think for most people, that is incentive. We've seen how the incentive of getting back to work in the last few days has really ignited people to get vaccinated. Those incentives work. And if we can incentivize people to say that if you're fully vaccinated, you might be able to undertake activity which you can't now, well, that's a positive. And I think most people would appreciate that.
Voilà, donc Gladys Berejiklian pour la Nouvelle-Galles du Sud. Alors, je vous le disais en titre, le territoire de la capitale australienne, l'ACT, entrera en confinement de 7 jours à partir de 17h aujourd'hui, après qu'un cas de COVID-19 ait été enregistré. Les autorités sanitaires affirment que le cas était contagieux dans la communauté et c'est pour ça que le confinement est instauré. L'ACT a enregistré son dernier cas, c'était un cas international il y a 105 jours, un diplomate qui était en quarantaine. Et le dernier cas acquis localement remonte à plus d'un an. Le ministre en chef de l'ACT, Andrew Barr, a déclaré que des réponses importantes étaient nécessaires pour devancer le variant Delta. On l'écoute.
We do not currently know the source of the infection, but extensive investigation has been underway for many hours. This is the most serious public health risk that we have faced in the territory this year, and really since the beginning of the pandemic.
Voilà donc pour l'ACT, le Victoria qui a enregistré 21 nouveaux cas de coronavirus acquis localement, dont 4 infections qui sont toujours sous investigation. Le service de santé ce matin a confirmé que 17 des nouveaux cas sont liés à une épidémie connue, tandis que 15 étaient en quarantaine pendant leur période infectieuse. Quelques 45 000 tests ont été traités au cours des dernières 24 heures et 25 000 doses de vaccins ont été administrées dans l'État. Alors pendant ce temps-là, également le Queensland qui a signalé 10 nouveaux cas de transmission communautaire. La première ministre du Queensland, Anastasia Palaszczuk, a déclaré que tous avaient été isolés pendant leur période infectieuse. On l'écoute.
In more good news today, we have 11 new cases, but 10 of them are all linked to the Indooroopilly cluster, and they're all in home quarantine. So that's fantastic news. And one person was detected in overseas from hotel quarantine from overseas. So that's fantastic news. We're very happy with that.
Ouais, donc Anastasia Palaszczuk pour le Queensland. Le gouvernement du Victoria qui limite davantage les permis de voyage pour les résidents dans la bulle à la frontière avec la Nouvelle-Galles du Sud. Les permis entrent en vigueur demain soir et viseront à garantir que les voyageurs ne traversent la frontière que pour 6 raisons essentielles. Le Premier ministre Dan Andrews a déclaré qu'il était essentiel d'avoir une image forte et plus claire, la plus claire possible des voyages au sein des communautés frontalières. Étant donné la propagation du virus dans l'État de Nouvelle-Galles du Sud. Le confinement de 7 jours du Victoria qui devait être levé ce soir a été prolongé d'une semaine pour permettre aux traceurs de contact de maîtriser l'épidémie. Le gouvernement du Victoria s'apprête à annoncer son dernier plan de sauvetage pour les entreprises touchées. Ce sera la troisième ronde de financement en trois semaines, avec un soutien de 800 millions de dollars déjà annoncé. On écoute Dan Andrews.
We'll be doing lots of communications along those border communities so that people know, but it's not good enough to limit movement. You need to know who's moving. And before anyone says, oh, why would you do that? If this virus can get from Sydney to Byron Bay, to Dubbo, to Armidale, to Tamworth, then only a fool would think that it couldn't get to Albury. It absolutely can.
Voilà, donc Daniel Andrews, vous allez pour conclure sur les infos sur le Covid et sur la pandémie en France. Le président Emmanuel Macron a justifié l'extension du pass sanitaire et a de nouveau appelé les Français à se faire vacciner car pour lui, la rentrée sera placée sous le signe du Covid. Les explications avec Valérie Gasse.
Emmanuel Macron a interrompu sa pause estivale pour lancer un nouvel appel à la vaccination.
Notre objectif, c'est la vaccination de tous les Français qui peuvent être vaccinés. Tenir au moins la cible de 50 millions de primo-injections à la fin du mois d'août.
À la rentrée, une campagne de vaccination va cibler les jeunes dans les établissements scolaires et les populations à risque auxquelles sera proposée une troisième dose. Et à partir de mi-octobre, les tests sans prescription ne seront plus gratuits. La vaccination, c'est une assurance tout risque contre la réanimation, a martelé Emmanuel Macron, qui prépare les Français à une rentrée sanitaire compliquée.
La crise sanitaire n'est pas derrière nous. Nous allons vivre pour encore plusieurs mois avec ce virus.
D'ici là, la Martinique et la Guadeloupe seront confinées. La Polynésie en état d'urgence sanitaire. Tous les voyageurs en provenance de pays à risque devront se soumettre à des tests antigéniques. Des mesures adaptées à la reprise de l'épidémie selon Emmanuel Macron, comme l'extension du pass sanitaire qui fait l'objet de critiques.
Jamais dans notre histoire, une crise d'une telle ampleur n'a été combattue de manière aussi démocratique. Nous avons rendu publiques toutes les données dont nous disposions sur lesquelles nous fondions nos décisions. Nous avons pris des décisions et c'est ce qui est attendu de celles et ceux qui président et gouvernent.
Au creux de l'été, Emmanuel Macron affiche sa fermeté.
13h09, vous écoutez le programme en français sur Radio SBS. Elle est direction l'Afghanistan. Maintenant, la situation se tend de plus en plus. Le Pentagone américain donc insiste sur le fait que la chute de Kaboul n'est pas inévitable, alors que les talibans viennent poursuivre leur blitz dans le nord-est de l'Afghanistan, s'emparant de 3 autres capitales provinciales et du quartier général de l'armée locale. Les gains donnent aux talibans le contrôle de 2/3 du pays, alors que les États-Unis et l'OTAN finalisent leur retrait. Mais la riposte s'organise pour tenter de sauver Mazar-e-Sharif, la plus grande ville du Nord. Les explications de Yelena Tomic.
En observant la carte de l'Afghanistan, seules quelques provinces du centre, dont la région de la capitale Kaboul et des districts dans l'Est, sont encore sous le contrôle des forces de sécurité afghanes. Les 3/4 du pays, de vastes territoires dans l'Ouest et le Nord, sont tombés entre les mains des talibans, dont l'avancée fulgurante de ces derniers jours ne surprend pas les observateurs. Tous les regards se tournent désormais vers Mazar-e-Sharif, ville stratégique du Nord, où le maréchal Dostum, puissant dirigeant ouzbek, a envoyé d'importants renforts pour contrer les insurgés. Le président Ashraf Ghani s'est également rendu sur place pour y rencontrer les responsables de la sécurité et des dirigeants djihadistes. Objectif, préparer une riposte et empêcher que cette dernière ne soit capturée par les insurgés. La situation humanitaire inquiète de plus en plus avec pas moins de 360 000 civils qui ont dû fuir ces derniers jours leur foyer et des témoignages d'atrocités commises par les talibans dans les villes conquises dans le nord. Autre fait majeur, le ministre afghan des Finances a annoncé avoir démissionné de ses fonctions et quitté le pays.
Voilà donc Valérie Gasse pour l'Afghanistan. À moins de 3 mois de l'élection présidentielle au Nicaragua, les opposants doivent choisir entre fuir le pays et ou se laisser arrêter. Carmela Roger, la présidente de l'opposition dans le pays, a dû quitter le pays. Une situation très compliquée donc avant les élections présidentielles. Le point avec Harim Lipold.
Selon Kitty Monterrey, plus personne n'est en sécurité au Nicaragua. La présidente du parti d'opposition Citoyen pour la Liberté s'est exprimée dans la presse costaricaine après sa fuite. Avant de quitter le Nicaragua, le régime Ortega lui avait retiré sa carte électorale et son passeport. Le porte-parole de son parti, un ancien ambassadeur, a lui aussi voulu fuir, mais il a été arrêté lundi dernier. Ce sont désormais 30 opposants qui se trouvent écartés de la présidentielle de novembre prochain, dont 7 candidats potentiels. Le président Daniel Ortega, qui brigue avec son épouse Rosario Murillo un 4e mandat, n'a donc plus de concurrents sérieux. Cette répression, qui a commencé en 2018 avec les manifestations anti-Ortega, a amené les États-Unis et l'Union européenne à mettre en place des sanctions contre le Nicaragua. Cette semaine, le régime Ortega a retiré ses ambassadeurs de 4 pays d'Amérique latine, dont le Mexique et la Colombie. Ces pays avaient rappelé leurs ambassadeurs pour consultation afin de protester contre la dernière vague d'arrestations des opposants. Selon certains observateurs, le Nicaragua pourrait, à l'instar du Venezuela, se retrouver de plus en plus isolé sur la scène internationale.
Voilà donc pour le Nicaragua. Allez, pour conclure ce journal, direction Singapour. Maintenant, ce petit pays a atteint un chiffre record, le record de 40% de recyclage de ses eaux usées. Gabriel Maréchaux.
À regarder la météo de Singapour, il est difficile de se dire que ce pays est en stress hydrique, reconnaît le professeur Snyder, directeur de l'Environment and Water Research Institute.
Il pleut tout le temps et pourtant on manque d'eau, cela paraît fou, mais c'est plutôt logique. Singapour est un petit pays avec une densité parmi les plus élevées au monde. Donc il n'y a pas la place pour collecter cette eau de pluie. Il y a des infrastructures pour désaliniser l'eau de mer, mais cela prend beaucoup plus d'énergie que de recycler les eaux usées.
Ainsi, l'eau qui part dans les toilettes parcourt des kilomètres de tuyaux, pompes, filtres et rayons UV pour ensuite ressortir ultra pur dans les robinets des particuliers et de nombreuses industries qui ont besoin d'eau d'une pureté absolue. Une métamorphose sans fin dont Singapour est fier, comme le montre cette vidéo de l'Agence nationale de l'eau.
Le recyclage des eaux usées, c'est un peu comme de la magie ou de l'alchimie. Personne ne veut d'une eau usée et nous, on la convertit en une ressource utile et précieuse.
Pour le professeur Snyder, la façon dont Singapour économise ses ressources en eau est sans pareil, mais malheureusement difficilement réplicable.
Souvent, les villes attendent de se retrouver face à des crises environnementales terribles pour se dire « ça serait sans doute bien de recycler l'eau », mais malheureusement, ce genre d'infrastructure prend énormément de temps.
Singapour, elle, investit plus de 6 milliards d'euros pour tâcher de rendre ses 728 km² de territoire plus indépendants sur le plan hydraulique.
C'était Gabriel Maréchaux, donc à Singapour. Allez, coup d'œil météo pour conclure ce journal. Aujourd'hui à Perth, il fera 18 degrés, Adélaïde 16, Melbourne 16 également, Hobart 13, Canberra 16, Sydney 21, Brisbane 25, Cairns 27 et Darwin 34 degrés. Rappel des grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Canberra et l'ACT qui rentrent en confinement dès ce soir à 17h. Un cas de coronavirus a été détecté. Le Victoria qui a enregistré de son côté 21 nouveaux cas acquis localement, dont 4 infections mystérieuses. Le Queensland en enregistre 10 et la Nouvelle-Galles du Sud 345.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.